Alors, Jérémy, ce soir, on reçoit Jean-Luc Porquet qui publie Le Petit Démagogue.
Bah ouais, ouais, ouais. Il y a un an, on recevait à peu près à cette époque Nicolas Beau, qui était journaliste, qui est toujours journaliste au Canard, qui publie un livre sur Bernard-Henri Lévy. L'année prochaine, on va recevoir Jean-Paul Grousset, probablement pour son prochain livre, Critique de cinéma au Canard, sur Éric Besson, Luc Besson, même combat, pourquoi pas. Donc aujourd'hui, on est très heureux donc, de recevoir Jean-Luc Porquet, donc journaliste au Canard enchaîné. Alors on connaît vos prises de position sur les OGM ou sur une critique assez frontale des technosciences en général, vos interrogations, plutôt les interrogations que vous suscitez chez vos lecteurs sur toutes ces nouvelles technologies. Mmh. Et on vous connaît moins, sauf depuis peu de temps, vous avez des articles à la Une du Canard très politiques qui tirent un portrait des fausses lettres ou des lettres ou des rêves d'hommes politiques actuels pendant cette campagne. Et donc, vous publiez, comme Pierre l'a dit, Le Petit Démagogue aux éditions La Découverte. Alex.
Moi, j'avais une question en fait, qui m'a percutée dès le début, avant même la lecture du livre, parce que j'ai trouvé des réponses dans ce livre après, parce qu'on avait reçu sur ce plateau Annie Colovalde, qui nous avait, pour son livre Le populisme du FN, un dangereux contresens, où elle nous expliquait que l'utilisation à outrance du populisme pour qualifier, par exemple, le FN, pointe le doigt sur les classes populaires, d'une manière un peu trop appuyée, sans pointer le doigt sur d'autres catégories de population qui sont tout à fait à même de voter Le Pen. Donc je me pose la question, est-ce que, en fait, comment vous entendez démagogue ? Parce que moi, j'ai fait le rapprochement avec populisme, alors peut-être je me trompe, justement. Comment vous entendez ce mot-là et pourquoi vous avez choisi ce mot-là ?
Parce que non, je sais qu'il y a un grand débat sur populisme, oui, Le Pen qui dit oui, mais on me traite de populiste, mais dans populisme il y a peuple, et moi je suis l'ami du peuple, etc. Enfin, on connaît toute cette thématique. Et puis c'est vrai que le bouquin dont vous parlez dit voilà, c'est un contresens de dire que. Parce que, en fait, c'est montrer que le peuple se trompe en votant pour des fachos comme Le Pen, etc. Et donc c'est désigner le peuple, etc. Donc j'ai refusé d'entrer dans ce débat. Moi, ce qui m'intéressait, c'était plutôt la. C'est la mécanique, c'est-à-dire en fait ce bouquin Le Petit Démagogue, je l'ai fait parce qu'il y a déjà je ne sais plus combien, une bonne douzaine d'années, je me demandais pourquoi Le Pen marchait. Je me disais c'est quand même étonnant ce type dont quand je regarde à la télé, quand je l'écoute, je vois bien que c'est des grosses ficelles, qu'il y a un talent, qu'il y a des idées, mais c'est quand même pas ces idées fachos qui séduisent. J'essayais de comprendre pourquoi ça marchait. Et je me suis dit, en fait, voilà, ça marche parce qu'il y a des trucs, parce qu'il y a une manière de séduire, une manière de vendre sa camelote, avec un contenu de la camelote qui est quand même qu'on peut retrouver chez d'autres. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer de voir quelle est cette figure du démagogue, qui pour moi me paraît être. La définition du démagogue, c'est simple, c'est celui qui flatte la foule et l'opinion publique pour mieux la tromper. Mais donc qui maîtrise des trucs, des systèmes de pensée, des formules de rhétorique pour la tromper quoi. Et donc j'avais fait un premier bouquin qui s'appelait le faux parler où je faisais même structure que celui-ci, c'est-à-dire un truc en sandwich des chapitres Le Pen et des chapitres avec où je faisais des parallèles avec des démagogues retrouvés dans l'histoire, etc. Et donc là, c'est simplement parce qu'à force de voir Sarkozy monter en puissance et de le voir ministre de l'Intérieur, je me suis dit quand même, c'est assez curieux, il y a un air de déjà-vu, et j'avais l'impression qu'il y avait des choses qui ressemblaient énormément à Le Pen, et donc voilà, j'ai fait ce bouquin en essayant d'isoler chez Sarkozy les trucs qui lui permettent de cartonner à ce point-là. Quoi. 31%, c'est pas un hasard.
Alors justement, on peut revenir, parce que vous vous dressez, vous vous interrogez justement, comme vous venez de le dire, sur une espèce de méthode, une espèce presque de technique qui fait qu'il reste en permanence sur le devant de la scène médiatique. Vous parlez de sa capacité à créer le scandale, d'une logique permanente de communication ou de simplification à l'extrême. Enfin, on peut peut-être revenir sur... Sur cette affaire des coups, des déclarations comme ça qui vont qui font mal, qui font fort et qui restent dans les mémoires. Par exemple, vous revenez évidemment sur la déclaration les déclarations Rakaille et Karcher en septembre 2005 et des conséquences que ça peut avoir.
Et ça, je suis persuadé que c'est un truc, c'est-à-dire que Le Pen disait un journaliste qui avait chopé sa conversation au téléphone avec un gars, il disait, tu sais, mon vieux, nous c'est à coup de scandale que nous avançons. Et c'est vrai, Le Pen, on ne va pas rappeler toute l'histoire, le point de détail, etc., mais c'est à coup de scandale, c'est en faisant entendre une autre voix que la voix un peu classique, conventionnelle des autres hommes politiques, que le démagogue marque sa différence et avance, et donne l'impression de parler vrai. Tous les autres donnent l'impression de pratiquer comme une langue de bois, un peu tenue, un peu... Le démagogue, lui, c'est quelqu'un qui fait dresser l'oreille de l'éditeur, parce que il dit des choses qui choquent, qui ont l'air d'être des... Il pulvérise des tabous, et Sarkozy a repris, c'est pour ça, à mon avis, c'est vraiment inspiré de Le Pen sur ces trucs-là. Le truc de Karcher, c'est vraiment travaillé, c'est voulu. La Rakaille, bon, maintenant, il dit, oui, mais j'ai fait que reprendre ce que disait une habitante. Mais simplement, il s'est mis en condition de reprendre ce que disait une habitante. Et tout ça est très travaillé. C'est le côté, je vais dans des endroits qui craignent, car je sais qu'il va y avoir des incidents, et je sais qu'au cours des incidents, il va peut-être se passer quelque chose. Il y aura une phrase qui va accrocher. Tout ça, c'est pensé, c'est théorisé, c'est mis au point. Et Sarkozy a passé son temps aussi à avancer à coups de scandale. Donc c'est un vieux truc, quoi, le truc de la Rakaille, le truc de Karcher.
Et vous pensez que ces récentes déclarations, par exemple, sur l'origine génétique de la pédophilie, du suicide ou même de l'homosexualité, parce que ça a été rapporté d'ailleurs dans le Canard enchaîné, font partie de cette stratégie ou de... Parce que là, d'après ce qu'il a dit, c'était plus de la... Enfin, il est revenu, mais pas tant que ça. Il le pense vraiment, c'est ce qui est...
Oui, oui. Y a aussi l'ambiguïté du démagogue, c'est que finalement, il finit par penser, par croire lui-même à ses propres mensonges, quoi, à ses propres. Et en même temps, c'est vrai que là il a l'air convaincu. Je pense pas que c'était calculé pour être pour faire scandale. Mais en même temps, bon, il se met en condition en discutant avec un philosophe soi-disant gauchiste de sortir peut-être des petits trucs qui vont faire dresser l'oreille, quoi.
Alors un des premiers chapitres que vous abordez, c'est même le deuxième, c'est sur la question de la communication, parce que en même temps ce goût du scandale s'accompagne d'une incroyable préoccupation permanente à être à communiquer, enfin à faire de la com. Il y a un staff autour. Est-ce qu'on peut dire quelques mots de cet homme politique qui, on a l'impression, où rien n'est improvisé?
Tous les journalistes de Paris vous diront que c'est la meilleure équipe de com de France et de Navarre. Il y a une équipe de com extrêmement agressive, soudée, qui est très réactive, etc. Et deux, il a mis au point tout un truc qui est de créer l'événement. Vous connaissez sa phrase, si j'étais secrétaire d'État au chou farci, on parlerait sans arrêt des chou farcis. Mon système, c'est l'omniprésence. Donc son truc, dès le jour où il était nommé ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire quand même en 2002, juste après les présidentielles, dès qu'il s'est mis, il a fallu préparer les législatives, il y avait un mois donc, entre début mai 2002 et début juin 2002, d'entrée de jeu, il s'est mis à occuper le terrain. Et on a tendance à oublier tous ces trucs-là, mais le flashball, c'était déjà là, en juin, en mai. Après, il voulait lancer les GIR, les groupements d'intervention régionaux. Il a profité du fait qu'il y avait une petite opération prévue par les flics à Strasbourg pour faire une grande descente à grand cinéma avec les caméras de TF1 mises dans la confidence, etc. Donc, il renouvelle la scénographie politique en créant l'événement. C'est-à-dire, il ne se contente pas d'être dans son bureau comme un homme politique traditionnel qui fait ses déclarations. Il a décidé, d'entrée de jeu, dès 2002, il a fait ça pendant 5 ans, de créer sans arrêt l'événement, chaque jour créer un événement, une déclaration, une provoque.
Alors moi, il y a un personnage que vous évoquez pas et pourtant ça m'y a fait penser beaucoup en vous lisant, c'est Bruno Maigret. Bruno Maigret qui avait un petit peu cette technique, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il se passait quelque chose, il montait dans la voiture avec 25 vigiles et puis il allait sur place faire une déclaration, que ça soit. Et on a l'impression qu'il y a une école, déjà au-delà de l'aspect physique qui pourrait les rapprocher. Il y a une école technique.
J'y avais pas pensé. Non,
dans, je ne sais pas si.
Non, ça ne m'est pas frappé. J'avoue, je ne connais pas bien Bruno Maigret. Je n'ai pas vraiment suivi son. Mais peut-être, oui. Je n'ai pas repéré le truc.
D'accord. J'ai une autre question, c'est sur la communication toujours, puisque vous mettez en parallèle, pour dire comment se fabrique le livre, il y a à chaque fois qu'il y a un chapitre qui est découpé par une grande thématique, en face, vous mettez des grandes figures, des grands démagogues à travers l'histoire, Poujade, Berlusconi, Milosevic, Cléon, enfin bon, on reviendra sur certains d'entre eux tout à l'heure, et justement vous évoquez Berlusconi et l'empire médiatique qui a derrière lui. Alors même si Sarkozy possède pas d'empire médiatique en propre, on a l'impression qu'il y a eu la construction d'un quelque chose qui y ressemble au service de ses ambitions.
Il y a deux choses. Un, il est très copain avec Lagardère, qui est quand même JDD Paris Match, Europe 1, Elle, etc. Bon, un empire. Lagardère a déclaré Sarkozy, c'est plus qu'un ami, c'est un frère. Bon, ça aide quand même d'avoir ça dans la poche. Il est copain avec Dassault, bon, Figaro. Il est copain avec Arnaud, La Tribune. Il est copain avec Pinault, Le Point. Enfin bon, donc ça fait déjà quand on a dans la poche les patrons de quelques-uns des plus grands médias de France, ça aide. Mais il ne s'est pas contenté de ça. Deuxièmement, il a réussi à créer une connivence, enfin, presque à embrigader, à faire d'une troupe de journalistes, des journalistes embedded, là, comme on disait. Hein,
comme disent les Américains quand ils les amènent en Irak.
Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette photo qu'avait publiée Paris Match l'été dernier, qui était sur une double. On le voyait assis, les mains jointes, en train de regarder vers le ciel avec un grand sourire. Il venait, paraît-il, de sortir une blague. Et autour de lui, on voyait une trentaine de journalistes, 30, 40 ans, en train de le regarder. Là, ça évoquait vraiment, vous savez, la photo d'Hitler, là, célèbre aussi, où il a un bureau, et on voit tout de lui 40 personnes avec les yeux braqués sur lui. Là, c'était quand même... Bon, n'exagérons pas, mais il y avait quand même un air de famille étonnant, parce qu'on voyait que ces mecs étaient subjugués. Alors, il y avait Philippe Ridet du Monde, il y avait le type de France Inter, Akili, qui suit depuis longtemps. On voyait que c'était... Et on voyait qu'il et en fait, c'est ça qu'il réussit à faire. Il réussit à créer une connivence. Il tutoie d'entrée de jeu les journalistes. Ridet a raconté ça dans Le Monde en disant « Comprenez, moi, au début, je le vois, il me tutoie. Alors, qu'est-ce que je dois faire ? Donc, je le tutoie. » Donc, d'entrée de jeu, il force... C'est toujours le passage en force. C'est-à-dire que passage en force, je force le barrage des convenances et j'embarque avec moi. Et il a réussi comme ça à fasciner, à subjuguer tous ceux qui le suivaient, quoi, ceux qui le suivent en permanence, qui l'emmènent dans son Falcon, qui leur donne des petits mots. En plus, il connaît très très bien le fonctionnement des médias, il leur donne toujours les petits mots. Il sait que c'est la machine médiatique est une machine qui a besoin en permanence de grains, de nourriture. Il leur donne du grain à moudre sans arrêt. Donc tout ça, c'est une fabrication. Et Berlusconi est un maître. Hein. Là, pour le bouquin, j'ai étudié un peu Berlusconi, comment il a fait. Berlusconi, en la matière, est un vrai maître pour Sarkozy.
Ben justement, revenons. On peut peut-être revenir sur la figure de Sarkozy que vous présentez comme un maître démagogie. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur la personnalité de Berlusconi ?
Berlusconi.
C'est moi qui me suis trompé avec les noms. Ouais. Ouais. Sur la personnalité de Berlusconi et comment... comment dans...
Sur Berlusconi, moi, par exemple, si Sarkozy est élu ce dimanche, chose qui peut arriver, il y a pas mal de gens qui disent « Ouf, on va enfin... Cette campagne électorale fatigante, épuisante, va enfin s'arrêter. Ils vont enfin nous lâcher. » Bon. Or, je suis persuadé du contraire, parce que Berlusconi, c'était la même chose. Quand Berlusconi a réussi à gagner les élections et à être Premier ministre en 2001, il y a, au terme d'une campagne électorale terrible, où il était omniprésent sur toutes les chaînes, etc., eh bien, ça a continué. C'est-à-dire qu'il a continué à mettre le pays dans une ambiance de campagne électorale permanente, à s'inviter dans ses télés. Évidemment, c'est plus facile, on possède trois, mais enfin, Sarko, c'est un peu pareil. À s'inviter en permanence à la télé et à être omniprésent. Je suis persuadé que si Sarkozy est élu président de la République ce dimanche, on n'aura rien vu jusqu'ici. L'espèce d'omniprésence médiatique qu'on a connue maintenant, ça sera pire. Il va occuper les écrans. De toute façon, il a déjà prévenu. Il a déjà dit, pour moi, le président, c'est celui qui doit rendre compte au peuple. Donc, il va rendre compte très régulièrement. Il y aura des grandes conférences de presse où ça sera directement au peuple, etc. Donc voilà un parallèle. Quoi.
Là, vous, enfin, à la différence de Sarkozy, Berlusconi, lui, il est né dans les médias, il est devenu politique par la suite. Sarkozy, c'est l'inverse qui risque de se produire, ce qui va se produire, d'après ce que vous dites. Est-ce que c'est pas, enfin, il est homme politique et il va être partout à la télé à partir de lundi prochain. Ouais. Est-ce que c'est pas aussi son personnage qui a intéressé les journalistes et pas l'inverse, forcément, parce que c'est quand même un des seuls qui a multiplié autant de postes ministériels à des postes de présidence. Mais les postes de présidence de parti en même temps. Et puis, c'est quelqu'un de jeune, peut-être quelqu'un d'atypique qui intéresse les journalistes.
Non, il n'y a pas grand-chose pour intéresser les journalistes. Au départ, il est quoi ? C'est un maire de Neuilly. Attendez, maire de Neuilly pour intéresser les journalistes.
Non, mais c'est récent.
Il faut qu'il fasse des efforts. Donc, il y a eu l'histoire de Human Bomb, là. Vous savez. Déjà, là, c'est là qu'il a senti le frémissement. Il s'est dit, tiens, en sortant de l'ordinaire, je peux capter. Tout à coup, il était zéro et il est arrivé dans
les
15 personnalités des politiques que connaissent les Français. Tout à coup, hop, c'est ça le premier truc qui va basculer. Bon, après, il arrive ministre de l'économie, je ne sais plus en quoi, 93 par là.
Ministre du budget à l'époque.
Du budget, donc là, il fait pas. Après, la campagne de Balladur, dénoncé comme traître, le système est en rodage. Je trouve, j'ai vraiment l'impression que c'est depuis qu'il est ministre de l'Intérieur que quand même il s'est servi de ce truc, sachant que la sécurité la phobie de l'insécurité et le combat sécuritaire était quelque chose de très porteur pour un démagogue. Il s'est servi de ce truc comme un levier d'accès aux écrans, quoi. Donc je crois que intrinsèquement, en soi, Sarkozy n'intéresse personne. Il sait rien sur rien. Il a eu 3 bouquins, toujours les mêmes, Belle du Seigneur, tout ça. Bon, il est pas intéressant. Juste, ce type a su se servir et il sait que ça sert la machine médiatique d'un sujet qui est porteur, les banlieues, la violence, etc.
Alors, toujours, on va continuer un petit peu à explorer la manière dont vous disséquez la. Le discours ou les manières de faire de Sarkozy, vous montrez qu'il ne s'embarrasse pas trop de la véracité des faits. On est souvent dans des demi-vérités ou des demi-mensonges. Et en tout cas, il y a beaucoup de simplifications qui permettent d'avancer et de ne pas.
Oui, il y a des. Comme moi, il y a des trucs qui m'énervent en permanence. Par exemple, le truc, c'est-à-dire, il répond à des fantasmes. C'est quand même ça qui est terrible. C'est qu'il répond aux fantasmes qu'ont les gens, d'ailleurs qu'il alimente. Par exemple, sur les parasites et sur le fait que les chômeurs sont tous des feignants, c'est un vieux truc. Et donc, là, il n'arrête pas de proposer, de répéter, dès que j'arrive au pouvoir, une de mes premières mesures, ça sera faire en sorte qu'un chômeur ne pourra pas refuser 2 fois de suite le même emploi. Sinon, il sera viré de la NPE. Or, cette disposition existe et a été votée d'ailleurs par le gouvernement auquel il appartient. Donc, donc c'est du pur pipeau. Ça existe, c'est dans les faits. Donc là c'est juste alimenter la machine à fantasmes, juste se mettre dans la posture de celui qui promet la trique. Regardez les chômeurs parasites, ceux-là, on va les saquer. Mais c'est tout simplement fantasmatique. Ça n'a aucun rapport avec le réel. Ça existe déjà. Donc, et c'est en permanence comme ça, quoi. Et ce qu'il déteste le plus, justement, c'est quand on le met en confrontation avec le réel. L'histoire des. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en septembre dernier, il y a l'histoire du préfet de Seine-Saint-Denis, dont Le Monde sort une note confidentielle, dit-on, une note où le préfet dit, regardez, en Seine-Saint-Denis, le département quand même l'un des plus insécuritaires, si on peut dire, de France, c'est la catastrophe. Les flics sont des très jeunes flics, inexpérimentés, il y en a de moins en moins, il y a de plus en plus de bavures, et le nombre de délits est en augmentation. Donc, et ça, c'est quand même le préfet qui le dit, qui donne des chiffres, etc. Donc c'est une claque pour Sarkozy, qui quand même est là aux manettes depuis 5 ans. C'est une claque énorme. Mais le préfet dit, continue dans sa note en disant « Et les juges de Bobigny ne font pas bien leur travail. » Donc là, Sarkozy, d'abord, ce qu'on va raconter dans le canard, il a convoqué tous les commissaires de Seine-Saint-Denis pour les engueuler, les traiter de tous les noms, connards, abrutis, incapables, etc. Donc c'est, tout à coup, c'est la confrontation avec le réel. Il prouve que son baratin sécuritaire, même ça, c'est bidon. Sur la simple réalité des faits, il s'est planté. Et il a dévié l'attention sur les juges, tous pourris, tous laxistes, etc., etc. Donc là aussi, c'est un vieux truc. C'est, je suis confronté avec le réel, avec mon bilan catastrophique. Hop, je détourne l'attention et je désigne un bouc émissaire. Là aussi, c'est une vieille ficelle.
Alors, il y a un autre exemple dont on pourrait parler, c'est ce qui s'est passé pendant les émeutes de novembre 2005, où il y a eu l'affirmation à plusieurs reprises qu'il s'agissait de bandes organisées. Ouais. Et il y a, pareil, on a vu le rapport des renseignements généraux sortir, et il a été jusqu'à nier ce rapport, à obliger à ce qu'il y en ait un autre qui corresponde à l'idée de bandes organisées qui soit fait...
Oui. Voilà. C'est un coup classique, quoi. Qu'est-ce qui se passe?
On fait un signe au technicien.
Ça correspond pas au. Il est capable de vous mentir les yeux dans les yeux et de bidonner sans problème. Mais il faut juste avoir. C'est un talent, quoi. Ça se travaille.
Que je connaissais pas est tombé, je ne sais pas pourquoi. C'était un coup d'épaule de trop. Il est tombé dans l'eau du pont du carrousel qui était réservé au Marcel. Ce jour-là, ils étaient des milliers qui défilaient pour Jeanne à pied. Tous ces ponts, il faut s'en méfier. Moi je n'ai confiance qu'à moitié, qu'il soit en bois ou même en ciment. On les passe pas forcément à cause d'un coup de paix dans l'eau, c'était le coup d'épaule et l'homme est tombé, mais le salaud. C'était pas le zéphyr ni la lune, c'était je crois le gros con joufou. Celui qui a donné le coup d'épaule n'a même pas goûté à l'atoll. C'était pas le coup d'épée dans l'eau, c'était un coup d'épaule de trop. Mais les ponts c'est pas fait pour les chiens, ils sont faits pour qu'il nous arrive rien. Ceux qui les ont bâtis savent bien qu'ils sont faits pour qu'on dise à demain. D'ailleurs si c'est des ponts c'est pas des tombes, alors pourquoi faut-il qu'on y tombe? On les construit pour aller plus loin ou plus vite et la main dans la main. À cause d'un coup d'épée dans l'eau, c'était le coup d'épaule et l'homme est tombé, mais le salaud. C'était pas le zéphyr ni la lune, c'était je crois un gros con joufou. Moi depuis tous les ponts je les jette au profit de si longs détours. D'ailleurs je ne marche plus, je cours pour mieux te retrouver mon amour. J'ai peur qu'un imbécile à pied me balance juste à la moitié. C'est à croire que pour franchir un pont, ben il faille s'appeler Dupont. Et depuis sur le pont d'Avignon, on n'y voit plus danser les pucelles. Elle pleure la mort du garçon dans l'eau du pont du carrousel. À cause d'un coup d'épée dans l'eau, c'était le coup d'épaule et l'homme est tombé, mais le salaud. C'était pas le zéphyr ni la lune, c'était je crois un gros con joufou. À cause d'un coup d'épée dans l'eau, c'était le coup d'épaule et l'homme est tombé, mais le salaud. C'était pas le zéphyr ni la lune,
c'était, je crois, trop con, je foule. À cause d'un coup d'épée dans l'eau, c'était le coup d'épaule, l'homme est tombé, mais le salaud, c'était pas le Zéphyr ni la lune, c'était le borgne, trop con, je foule. Et depuis, sur le pont d'Avignon, on n'y voit plus danser les pucelles. Elle pleure la mort du garçon dans l'eau du pont du carrousel.
Allez, Zebda, c'était pour se rappeler ce qui s'est passé, ce qui s'est passé hier. C'était la commémoration de la mort de Brahim Bouaram le 1er mai 1995, balancé à la Seine en marge du défilé du Front National. Et comme chaque année, il y avait hier un rassemblement au pont du Carrousel. On s'en change de sujet, mais c'est même pas sûr. On est toujours avec Jean-Luc Porquet qui publie Le Petit Démagogue. C'est un livre sur Nicolas Sarkozy, mais c'est un livre que vous expliquez ça au tout début du livre, que vous avez fait sans le rencontrer, que vous avez fait plus ou moins le choix de pas le rencontrer.
Oh, j'ai fait le choix. Ouais.
Et alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer justement ce...
Parce qu'il n'y a rien de plus facile que de rencontrer Sarkozy. Tous les journalistes de Paris, enfin bon... Tous les journalistes politiques de Paris le connaissent. Il est toujours content quand il voit arriver. Enfin, je suis pas vraiment, plus vraiment un petit jeune, mais quand il voit arriver une tête nouvelle dans une rédaction, hop, c'est tout de suite la séduction, c'est tout de suite l'embarquement, le tutoiement obligatoire, etc. Et j'avais pas du tout envie de. Bon, au Canard, il y a des gens qui le connaissent, hein, donc je voyais pas vraiment pourquoi le connaître. Surtout que j'avais toujours présente à la mémoire donc cette phrase d'Orwell qui dit que quand on rencontre quelqu'un en chair et en os, on s'aperçoit tout de suite que c'est que voilà, vous réalisez aussitôt qu'il est un être humain et non pas une sorte de caricature incarnant certaines idées. Et Orwell disait pour avoir une sorte de c'était quoi déjà, c'était une sorte de pour avoir un minimum de brutalité intellectuelle, il vaut mieux ne pas connaître les gens. Et bon, je crois que dans le cas de Sarkozy, là, c'était un choix tout à fait clair. Je me suis dit, bon, ce type se répand tellement partout, il n'y a qu'à se ramasser pour récupérer ses citations, ses interviews. Ça, à quoi sert de l'encontrer, quoi? Si ce n'est se dire, tiens, finalement, il n'est pas si mauvais que ça, il est plutôt sympa. Et, bon. Et faire l'expérience de la séduction par Sarkozy, j'avoue que c'est une expérience dont je me passais aisément. Donc, voilà.
Et tu sais quoi, il y a aussi le... J'ai l'impression que ça vous inquiète aussi l'attitude que peuvent avoir certains de vos collègues journalistes.
Oui, c'est inquiétant parce qu'il travaille ça aussi. Il travaille la séduction des journalistes. Et forcément, quand il décroche son téléphone, il appelle les gars. Hey, qu'est-ce que tu m'as fait comme papier hier quand même? T'es dégueulasse. Voilà, donc c'est quand même ça en permanence, quoi. Donc non, je n'avais pas envie de connaître ça.
Alors, si vous n'avez pas rencontré Nicolas Sarkozy, la plupart des gens que vous citez dans votre bouquin, vous ne les avez pas rencontrés, parce que certains sont morts depuis bien longtemps.
Oui.
Et d'autres.
Savonarole, par exemple. Savonarole, je regrette. Là.
Et nous non plus, on ne les a pas rencontrés. Il y en a même qu'on ne connaissait pas, parce que vous parlez d'un certain Huey Long, donc un petit bonhomme de Louisiane fort sympathique, ouais, qui a progressé progressivement, progressivement forcément, dans la société, dans l'État en tout cas de la Louisiane. Pour devenir gouverneur, et vous parlez des liens qu'il avait avec les journalistes, là aussi, vous en parlez dans votre bouquin. Vous pouvez nous faire un petit portrait de ce personnage, un discours très...
Oui, c'est un vrai personnage. Huey Long, que j'ai découvert en lisant un bouquin formidable, l'un des rares romans sur la démagogie qui est de Robert Penn Warren, qui s'appelle Les Fous du Roi, dont un film a été tiré avec Sean Penn, là, qui est passé il y a 6 mois. C'est un livre formidable qui montre l'ascension d'un petit pecnot, d'un petit fils de paysan qui a un bagout formidable en Louisiane et qui commence à faire le tour des villages en disant vous, en haranguant les autres, vous les pecnots, on vous méprise, regardez. Et c'est vrai que la Louisiane était à l'époque, et encore d'ailleurs, mais un état vraiment dans une misère terrible, sans route, sans école, etc. Il a commencé à dire... même truc que tous les démagogues, quoi. C'est-à-dire, regardez, en haut lieu, on vous méprise, on vous prend pour des nuls, on vous donne pas d'école, on vous donne pas de livre de classe, on vous donne pas de route, on vous donne pas d'hôpitaux. Moi, si je suis élu, je vais faire ça, parce que moi, les gars de Washington, je vais leur montrer de quel bois je me chauffe. Il a fait une tournée comme ça, électorale, magnifique, avec plus ou moins des méthodes de chantage et de brutalité. Il s'est fait élire gouverneur de Louisiane. Et pendant, je crois, 6-7 ans, donc c'est début des années, c'est années 20-30, hein, il a pris évidemment quelques mesures, genre construction de routes, quelques hôpitaux, évidemment, voilà, quelques mesures positives, mais derrière, c'était un délire de corruption, de scandale, de manipulation de la presse, de chantage, de voilà, il a fini par se faire assassiné d'une balle dans la tête par un des gars à qui il avait nuit. Et certains commentateurs disent, parce qu'il voulait se présenter à la présidence des États-Unis, hein, certains disent que la phase de l'Amérique en aurait peut-être été changée si ce type était devenu, parce qu'il c'était vraiment de la graine de comme tous les démagogues, de la graine de fasciste, quoi.
Alors il y a un autre personnage que vous écornez. Moi ça m'a assez plu parce que il y avait eu ce film, c'est Evita Perón. Il y avait eu ce film avec Madonna. À la gloire d'une figure quand même qui est quand même. Enfin, ça, c'est pas la grande humanitaire qu'on nous a présentée dans la superproduction hollywoodienne.
Non, là aussi, il y a un bouquin qui est terrible, qui s'appelle La femme au fouet, qui est terrible, qui montre à quel point elle était acariâtre, hargneuse, dès qu'elle rencontrait un gréviste. Mais qu'est-ce que tu fais là, espèce de connard ? Enfin bon, et puis la terreur régnait quand même sous Perón et Evita Perón. Il y avait le fameux camp Ushuaïa qui était donc. Il était quand même un camp de concentration pour anarchistes avant d'être le but de villégiature de Nicolas Hulot. Donc il y avait quand même c'était un État pré-totalitaire et avec cette femme qui se présentait comme la Madone des humbles, la maman, la sainte Evita, celle qui allait et qui elle aussi elle croyait. C'est toujours ça qui est curieux chez ces personnages. Elle croyait elle aussi plus ou moins à moitié à ses mensonges, à son baratin. Elle pensait vraiment qu'elle était très bonne envers ce peuple argentin démuni, etc. Les gens faisaient la queue dans sa fondation de charité pour la voir, la toucher, lui parler, réussir à avoir une petite aide. Enfin bon, Evita Perón est un personnage fascinant, mais le bilan est quand même désastreux, quoi. Le bilan du péronisme est catastrophique.
Vous parlez aussi de Savonarole, donc ça c'était ça en Italie. Moi je voudrais peut-être voir un peu c'était un religieux, la part du religieux dans le démagogue, est-ce qu'il faut être religieux, est-ce qu'il faut croire en Dieu pour être démagogue ?
Ah, alors attendez que je réfléchisse. J'avais posé la question dans ces termes, est-ce qu'il faut être religieux ? Sarko il est pas religieux, hein.
Dès qu'il a l'occasion de se montrer en train de faire le signe de croix ou dans une église, il rate pas l'occasion.
Il l'utilise, parce qu'il pense profondément que les masses, il faut quand même les tenir. Il y aurait plus d'ordre dans les banlieues s'il y avait des mosquées tenues par des barbus un peu sérieux et des églises avec des curés un peu qui emmènent leurs ouailles, etc. Et donc, il pense que la paix sociale serait défendue par un clergé, si un clergé était un peu plus fort. Donc, pour lui, l'usage de la religion, c'est ça. Mais personnellement, quand on lui demande s'il est croyant, il dit oui. Je dis, c'est un peu le pari de Pascal, c'est oui, finalement, ça ne sert
à rien.
Pas plus. C'est pas vraiment un. Savonarole, sinon qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Oui, Evita Perón était très croyante. Poujade, c'était pas vraiment un grand croyant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ?
Feuillon, dont vous parlez.
Milosevic, c'était pas spécialement.
Il sert de la Bible assez souvent, c'est pour ça que je pensais à ça.
Pardon ?
Feuillon de Louisiane.
Oui, Feuillon, est-ce qu'il était croyant ou non ?
Non, mais c'est parce que vous parlez souvent de la Bible aussi, ça fait partie d'un programme politique. Quoi. Bible comme programme, c'est.
Comme moyen, comme moyen d'action. Mais c'est pas systématique, quoi. Ouais, je sais pas. Boulanger, est-ce qu'il a joué ce jeu-là ? Général Boulanger, pas trop. Hein. Je pense pas qu'on puisse dégager une loi générale.
Moi, je voulais revenir sur la place. Une autre question sur la place du discours sécuritaire, où on a vu. l'importance que ça prend déjà dans le paysage politique global, ça peut nous faire revenir sur une autre figure du démagogue que vous évoquez, qui est celle de Le Pen, mais la manière dont Sarkozy va s'en emparer, est-ce qu'entre ces deux personnages on a le même recours à la question sécuritaire ou qu'est-ce qui les distingue?
Ce qui est distinct, c'est qu'il y en a un qui a eu le pouvoir et pas l'autre, quoi. Et Sarkozy, quand même, il a quand même fait le nombre de lois qu'il a fait sur la sécurité. Il y a quand même, je lis la liste, une loi sur la sécurité intérieure, deux sur l'immigration, une sur la récidive, une sur l'antiterrorisme, une sur la prévention de la délinquance. Il a quand même légiféré à mort en permanence avec la surenchère. Là, il dit que l'une de ses premières décisions, ça va être une peine planchée pour les multirécidivistes. Donc, de toute façon, quand on est dans cette logique sécuritaire, c'est jamais assez. C'est toujours la surenchère. Et donc, il a été aux manettes. La différence avec Le Pen, c'est que Le Pen, lui, il a toujours promis la trique, mais il n'a jamais été dans la position pour la tenir, la trique. Alors que Sarkozy la tient. Et bon, on a vu ce que ça a donné. À mon avis, s'il est élu, ça risque. Ça ne peut qu'être pire, quoi. Il ne peut que en rajouter. On n'en aura jamais assez dans le vidéoflicage, dans le contrôle permanent au faciès, dans les expulsions. Parce qu'il y aura toujours un fait divers. Il y aura toujours une victime, parce que son vieux truc aussi, c'est des victimes. Aller voir la mère, la parente d'une victime et aller pleurer sur son épaule en disant « Regardez ce que les voyous vous ont fait, il faut absolument... » Et donc, il identifiera toujours un nouveau bouc émissaire. Ce sera... Bon, là, il va abaisser pour les mineurs donc de 18 à 16 ans. Hein. Il a promis que les mineurs de 16 ans auront les mêmes peines que les majeurs. Et il y aura toujours d'autres catégories qui seront... là, il a déjà stigmatisé les prostituées, les gens du voyage, les mendiants qui mendient avec des chiens, les gamins qui sont dans les halls d'immeubles. Il a fait quand même une loi spécifique. Enfin, il y a un article de loi spécifique qui est pour les gamins qui sont dans les halls d'immeubles et qui emmerdent. Bon. Et toutes ces lois sont là aussi fantasmatiques et inefficaces. Là, quand vous demandez à la police de donner des statistiques, savoir combien de fois cette loi sur les gamins qui encombrent les halls d'immeubles a été appliquée, ils vous disent peut-être une fois, il y a peut-être eu un cas, mais rien, quoi. Ça roule dans le vide. Mais c'est de l'affichage. Donc il y aura, à mon avis, à la fois un affichage permanent et puis il y a aussi des actions réelles permanentes sur les expulsions et le reste, quoi.
Vous dites aussi qu'il alimente un discours de peur, il attise les peurs en mettant l'huile sur le feu en permanence. Oui. Ça va aussi avec ce discours sécuritaire. Il a le problème, oui. Il a la solution.
Voilà.
Et en plus, le problème, il le dit d'une manière directe. Il ne s'embarrasse pas avec des mots de vocabulaire compliqués. Ouais. Vous pouvez développer un petit peu comment est-ce qu'il arrive à attiser tout ça. Comment
le truc est simple. Le truc, c'est alors là aussi on peut se reporter à ce qu'il avait dit au moment où en mai 2002 il avait été donc nommé Premier ministre, et sa première déclaration c'était une phrase assez terrible. C'était oui, en ce moment en France, chacun est terré dans sa maison, dans son village, dans les bourgs, nos bourgs si, si charmants, si agréables. On ne peut plus sortir la nuit. L'insécurité règne partout. Bon, il a fait tout un truc et en disant « Je promets que pas un centimètre carré de la République ne sera hors du contrôle de la police. » Donc c'est simple, c'est un mécanisme vraiment idiot, quoi. C'est un, on dramatise la situation, et deux, on se présente soit comme solution du problème. Donc voilà, une fois qu'on a dit ça, le truc est d'un simplisme absolu, quoi.
Mais justement, comment les gens arrivent à se laisser prendre? Comment il arrive à faire 31% quand les problèmes qu'il expose et les solutions qu'il propose, il dit qu'il les appliquera quand il sera élu, alors qu'il est au gouvernement depuis quelques années déjà? Comment est-ce qu'on arrive à se laisser prendre?
Parce qu'en même temps, il organise l'amnésie. Parce qu'il connaît très bien le système médiatique qui n'est fait que de nouvelles qui chassent d'autres. En plus, maintenant, avec toutes les chaînes d'information continue, France Info, iTélé, etc., etc., on est sous une avalanche d'informations qui chassent l'autre. Il n'y a plus de... on est quand même dans une machine de propagande organisée, qui est faite pour faire en sorte que les gens n'aient plus de moments de recul ou de réflexion. Et lui, il alimente la machine. Donc, sur son bilan sécuritaire, ça a quand même été formidable. Il est 5 ans ministre de l'Intérieur. Au moment où il fait le bilan, d'accord, il y a les délits qui ont un peu baissé, mais ça, on sait que les délits, ça se fait baisser par simple manipulation policière. C'est les flics qui refusent de mettre certains petits délits dans leurs statistiques, point. Donc, ça, on fait baisser de manière... Un bon ministre de l'Intérieur, c'est un ministre qui donne suffisamment de primes à ses policiers pour que ceux-ci le considèrent et décident de lui faire plaisir et décident de faire baisser les chiffres apparents de la délinquance. Donc il a réussi ça. Mais en même temps, sur les seuls chiffres qui ne sont pas trucables, qui sont les violences aux personnes, elles ont quand même augmenté de 14% en 5 ans. Bon. Donc quand il fait le bilan, il réussit, lors de ses conférences de presse, réussit par éliminer le chiffre des 14%, en disant « mais ça, c'est pas important ». Et les gens oublient, parce que les chiffres, les pourcentages, les trucs, et donc il réussit à truquer le bilan en disant « regardez, mon bilan est bon, mais pas assez, on peut aller plus loin, etc. Mmh. » Donc il y a quand même il organise l'amnésie, et le système l'aide à faire ça. Mmh. Oui.
Et alors il y a un des autres aspects de son discours et de sa posture, c'est la question de la rupture, où il se place, ce que vous expliquez, il se place en... candidat du changement et de la rupture, ce qui...
Bah oui, la rupture tranquille.
Ça, c'était pas mal.
Bon, quand même... Bon, on l'a dit mille fois, mais c'est un oxymore. C'est le modeste et fier de l'être, l'obscure clarté, tout ça. Donc, c'est tout et son contraire. Donc, oui, la rupture, c'est-à-dire, là aussi, c'est quelqu'un qui est dans le système depuis 30 ans, qui a fait partie de l'appareil du RPR... Dès 20 ans, ce type est un militant. Dès 20 ans, il va coller des affiches pour le RPR. Il devient maire. Il est sous l'ombre tutélaire de ce grand démocrate qui est Charles Pasqua. Donc, il se fait former par Pasqua et par le maire de Neuilly. En trahissant Pasqua, il devient maire de Neuilly. Enfin bref, on va pas faire toute la carrière, mais toute cette carrière se place à l'intérieur de l'appareil gaulliste puis chiracien. Et il essaie de faire croire qu'il est l'homme nouveau. Et là aussi, c'est un tour de force. Et les démagogues font tout ça aussi. Tous essaient de croire qu'ils sont des hommes nouveaux. Est-ce que Le Pen bon, le fait en permanence. Le Pen faire croire qu'il est un homme nouveau alors qu'il a été député en 56. Enfin bon, ils ont tous fait ça. Tous essaient de se donner la posture de l'homme nouveau qui fait pas partie du sérail, qui a un autre langage, qui a un autre profil. Et donc, voilà, c'est ce qu'il a réussi pour l'instant.
Wouldn't it be nice if we were older, then we wouldn't have to wait so long? And wouldn't it be nice to live together in the kind of world where we belong? No, it's gonna make it that much better when we can say goodnight and stay together.
Voilà, Guillaume qui n'arrive pas à totalement désespérer, nous proposer un petit peu de musique jeune, gaie et entraînante. On est toujours sur Fréquence Paris Pluriel, l'émission Les Oreilles Loin du Front. Et on est toujours avec Jean-Luc Porquet, l'auteur du Petit Démagogue. Le Petit Démagogue, aux éditions La Découverte. Jérémy.
Oui, donc on l'a dit, dans ce livre, vous explorez plusieurs facettes de la démagogie que vous illustrez à chaque fois par un personnage historique qui s'est illustré dans cette caractéristique de la démagogie. Un exemple à appliquer, une application, et on apprend donc évidemment plein de choses. Comment ce démagogue est né, comment il a pu se développer dans la société dans laquelle il a vécu, quels étaient les facteurs environnementaux à ce moment-là, et comment ils finissent. Une généralité, c'est que les démagogues finissent mal en général.
C'est rassurant.
Pardon ?
C'est rassurant.
Oui, c'est rassurant. Donc, ouais. Peut-être que justement, est-ce qu'on peut peut-être terminer sur une
petite chose là-dessus ? Si je prends les neuf qui sont dans le bouquin, Poujade, finalement, il était au pouvoir. Il a eu 52 députés, oui. En 56, il les a eu pendant 2-3 ans. Les députés n'ont servi à rien. Puis après, il s'est fait balayer. Et point, quoi. Bon. Juste dans les 52, il y avait Le Pen. Mais bon, Poujade, personnellement, il est mort il y a 2-3 ans. Il n'a pas fait une carrière politique. Après Berlusconi, c'est intéressant. Il a quand même été au pouvoir de 2001 à 2006. Donc, ce qui prouve quand même qu'on peut posséder 3 chaînes de télé, quasiment l'ensemble de la presse, de la presse d'un pays, la plus grande maison d'édition, Mondadori, avoir quasiment tous les médias pour soi et se faire bouler. Bon, il s'est fait bouler de justesse et là, il essaie de revenir. Mais en tout cas, il a duré 5 ans et il s'est fait virer. Donc, Berlusconi, c'est quand même... Une bonne nouvelle. C'est un modèle qu'on peut.
Je suis prêt.
Oui, qui est là. Après, Huelong, bon, on l'a vu tout à l'heure, le mec s'est fait assassiner après 5-6 ans de pouvoir, il n'avait même pas 40 ans. Milosevic, bon, on l'a vu, hein, Milosevic, ça, bon, il a fait des dégâts. Après 200 000 morts en Croatie, Bosnie, et après avoir déclenché une guerre, il a quand même fini par finir ses jours dans une prison. Bon, Cléon, ah oui, c'est 5e siècle avant Jésus-Christ. Lors d'une bataille, il n'a pas pu exercer le pouvoir longtemps, il s'est fait avoir. Savonarole se retrouve quand même sur un. Estrapadé, non ? C'est-à-dire démembré complètement, puis après brûlé sur un bûcher. Donc une mort un peu pénible. Il ne l'avait pas volé, mais bon. Boulanger se suicide sur la tombe de sa maîtresse. Evita Perón meurt d'un cancer à 39 ans. Ouais. Et Le Pen est dans les choux. Donc,
un petit plan sur la comète sur la fin de Sarko, tant qu'on y est.
Oui, donc Sarko qu'on présente quand même toujours comme un parce que là, quand même, on est dans une opération de bourrage de crâne où ça a l'air d'être un surhomme. Regardez, il remplit les salles, il est tellement bon, il est tellement fort, il parle tellement bien. Ce soir, il va écraser Ségolène au débat, etc. Bon, il a quand même l'ensemble des médias, lui aussi, à son service, qui sont en train de nous faire croire, de Glucksmann à Rick Azaray, en passant par Gilbert Montagnier et Johnny Hallyday, que ce type est un type formidable et que de toute façon, il est tellement doué, il est tellement fort. Non, il n'est pas doué, il n'est pas fort. Il utilise juste des trucs de manière très pro, mais il peut très bien se casser la figure. Heureusement, d'ailleurs.
J'avais juste une dernière petite question, alors pas sur votre livre, mais sur votre journal. Je voulais m'assurer que vous étiez en forme financièrement, que vous allez pouvoir survivre à quelques années de confrontation avec un pouvoir qui risquerait de ne pas être très tendre avec la presse dissidente.
Oui, mais vous savez, il a dit qu'il préférait l'excès de caricature à l'absence de caricature. Donc forcément, il sera vachement sympa avec nous. Non, mais j'en sais rien. Non, mais c'est vrai que bon, le canard a des réserves financières qui lui permettraient d'assurer en cas de procès de coup dur. Mais en même temps, un journal, c'est très... Bon, on a beau être une institution et exister depuis 90 ans. En même temps, un journal, c'est quelque chose de fragile. Et devant un pouvoir déterminé, ça peut évidemment poser problème, oui.
Enfin, s'il y a des journalistes au Canard qui tutoient Sarkozy...
Ça, j'en sais rien. Est-ce qu'ils le tutoient Je ne sais pas. Il faudrait que je leur demande s'ils le laissent les tutoyer.
Et moi, j'avais une dernière question. Ce livre est paru en janvier 2007 aux éditions La Découverte. Alors nous, on a reçu un communiqué de presse, donc on s'est dit intéressé par le livre, par votre éditeur, mais... Il y a eu quelle réception d'un livre ? Est-ce que il y a moyen de gagner beaucoup d'argent et de devenir une star médiatique en écrivant un livre contre Sarkozy ?
J'ai essayé, mais c'est raté. Non, mais d'abord, j'ai voulu qu'il ne soit pas cher parce que...
Oui, 10 euros pour un vrai livre, hein, c'est même pas un poche. Hein,
Voilà. Donc, parce que, comme je vous l'ai dit au début, c'est quand même une sorte de comment dire, de recyclage, au sens noble du terme, au sens écologique du terme, de recyclage d'un bouquin que j'avais fait sur le PET il y a 15 ans. Donc voilà. Mais en même temps, bon, oui, il est sorti. Il y a eu quoi ? Il y a eu un papier dans le Canard, forcément, parce que la règle du jeu dans le Canard, c'est qu'on parle toujours des bouquins des journalistes. Donc, parce que ça se paye aussi un peu de travailler au Canard. C'est-à-dire que on fait parfois des bouquins qui déplaisent aux confrères des autres journaux et donc ils n'en parlent pas, quoi. Donc là, il y a eu un papier dans le Canard. Je suis passé chez Mermet, donc là-bas, si j'y suis. Et puis, rien, quoi. Donc, enfin bon, là non plus, c'est même pas la peine de faire de parano et de dire, regardez, Sarkozy a tenu à ce que... Non, c'est simplement que la plupart des journalistes politiques, j'imagine, se sont dit, qu'est-ce que c'est que ce bouquin ? Oh, une sorte de pamphlet. Ah bon, Porquet, il dit qu'il ne l'a même pas rencontré. Bon, bah... Donc, il n'y a pas d'infos nouvelles, c'est que de la compile. Et puis, on préfère parler du bouquin de Catherine Ney, qui, elle, au moins, a rencontré le papa, la maman, les cousins, les oncles, les neveux, fait une vraie enquête de proximité, et puis qui a fait une hagiographie formidable, qui cartonne, et elle a eu tous les médias, évidemment. Bon, c'est pas pareil.
Voilà, bon, ben alors, donc, on rappelle Jean-Luc Porquet, Le Petit Démagogue. C'est aux éditions La Découverte. Et effectivement, il y a un vrai effort sur le prix, puisque ça coûte 10 euros.
De toute façon, c'est trop tard, parce que, vous savez, les bouquins vivent 3 mois maintenant. C'est la règle de l'édition. Un livre vit 3 mois. Il arrive sur l'étal du libraire le 18, et 3 mois plus tard, le libraire renvoie à l'éditeur les trucs. Donc là, il en reste peut-être quelques-uns qui traînent sur les... Mais bon, là, maintenant, quand on écrit un livre, on écrit pour un trimestriel. Hein, donc, il faut le savoir.
Oui, non, juste pour témoigner justement là-dessus, j'ai voulu l'acheter aujourd'hui. J'ai réussi quand même. Mais j'étais très tenace parce que j'ai d'abord été dans des librairies de quartier. Et effectivement, il faut commander. Si je le voulais pour ce soir, c'était un peu raté. Donc, j'étais obligée d'aller dans une grande chaîne et de trouver le dernier qui restait dans le rayon.
Voilà, donc mais merci beaucoup. On vous laisse parce que je crois que vous ne voulez pas louper le débat ce soir. Oui, enfin, ce soir, si vous nous écoutez, parce qu'on est mercredi, ou d'avant-hier, si vous écoutez dans la rediffusion du vendredi sur cette même antenne, pour que ça soit clair. Entre les deux candidats, alors on discutait, vous n'êtes pas du tout persuadé de la toute-puissance de Sarkozy dans un débat.
Non, parce qu'il est habitué à faire ses... Enfin, il y a quelques figures de rhétorique qui sont assez simples et qui sont assez faciles à démonter, quoi. Une fois qu'il a fait le coup du genre « Mais est-ce que vous trouvez normal qu'un enfant aille à l'école la peur au ventre ?» Non. Et ben, bon, ça, c'est un truc qui fait de manière classique, poser la question et répondre lui-même. Et forcer la personne à qui on parle à acquiescer, à répondre oui à sa question. Bon, ça se démontre quand même d'une phrase, quoi. Bon, si on est malin, enfin bon, si on connaît un peu les trucs de rhétorique, on peut. Donc voilà, non, ça me paraît pas perdu. Hein. Enfin, je dis pas que c'est forcément gagné, mais.
Merci beaucoup. Allez.